La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Bonjour à tous. Alors, comme la plupart d'entre vous le savent, cette semaine, nous avons vécu la semaine de prière de la jeunesse. Et donc, c'était de samedi dernier, sabbat dernier, à aujourd'hui. Et donc, on l'a conclu aujourd'hui. Et je voudrais vous faire un petit retour de ce que nous avons vécu avec les jeunes. Ah, c'est écrit petit. Ça va, vous voyez quand même? Alors, on avait choisi de se mettre en cercle. On avait créé un cercle comme ça, comme vous voyez sur l'image. Et on avait un petit peu découpé ce moment. Alors, on commençait par un petit jeu où on faisait connaissance. Jonathan vous en parlera un peu plus juste après. Après, on prenait un temps de louange. On avait bien sûr nos musiciens qui étaient là. On avait beaucoup de musiciens même. On avait même des violonistes qui nous accompagnaient. On avait de beaux moments de louange. Et après, on avait le petit message. Et c'était le thème, bien sûr, de la réforme. Cette année, on revisitait un petit peu la réforme qui nous touche encore aujourd'hui. Et on finissait ensuite par des petits temps en groupe. On commençait par un temps de partage sur différentes questions liées au thème et aussi sur des moments de prière en groupe. Et cette prière, nous l'avons vécue de manière toute particulière, inspirée d'ailleurs de ce que j'avais entendu d'une fois Bernard Sauvagnat qui nous avait parlé de cette idée qui m'avait beaucoup plu. On a commencé le premier soir à prier pour nous. Nous avons pris des sujets de prière qui étaient pour nous. Et vous voyez les quatre pôles, ce sont nos prières qui ont été affichées. Et donc sur le jaune, les personnes qui étaient là, donc le dimanche soir, ont choisi un sujet de prière qui les touchait eux. Et après, le deuxième soir, on a prié pour des personnes proches de nous, très proches de nous, comme dans notre famille, proches, nos parents, frère, un frère, une sœur. Mais chaque fois, une personne. Le lendemain, nous avons prié pour la famille un peu plus loin, sur un cousin, pour une cousine, une tante. Le lendemain, nous avons prié pour un ami, quelqu'un qui est proche de nous et que nous voulions porter à Dieu. Le lendemain, nous avons prié même pour une personne qu'on voit tous les jours, mais qu'on ne connaît pas. Et vous voyez, au fur et à mesure, ça s'agrandit, on va vers l'extérieur, ça part de nous, et on se tourne vers les autres, pour que la prière ne reste pas quelque chose de centré sur nous-mêmes, mais que ça tourne aussi vers l'autre et vers les autres. Et hier soir, nous avons fini par prier pour différentes personnes qui servent notre communauté, pas juste notre communauté ici, mais le pays. Nous avons eu des prières pour les hôpitaux, les aides-soignants, les infirmiers, les pompiers, la police, le gouvernement, les dirigeants. Nous avons aussi plein de thèmes qui sont écrits. Si vous voulez, après le service, vous pouvez passer, voir un petit peu ce que chacun a pu exprimer. Et ils ont été des temps riches entre nous. Et les thèmes que nous avons vécus, que nous avons vus pendant cette semaine, sabbat dernier, la plupart d'entre vous étaient là, nous avons vu la Bible, comment, grâce à Luther et à d'autres, nous avons pu avoir accès au texte dans une langue qu'on comprend, pas juste en latin, comme c'était à l'époque. Le jour d'après, donc le dimanche soir, nous avons vu la grâce, comment seul Dieu nous permet d'être sauvés. Ce n'est pas par ce qu'on va faire, ça ne va pas être par nos propres œuvres, notre propre travail, qu'on va être sauvés, qu'on va avoir cette vie éternelle avec Dieu. Le soir suivant, nous avons parlé un peu de la prière. Comment est-ce qu'on peut communiquer avec Dieu? On a vu différents moyens, on a vu ce que ça représentait, on a vu comment Luther aussi, qui a écrit sur la prière, nous a donné quelques petits conseils. Le jour suivant, nous avons un petit peu vu notre identité. Et le cœur de ça, c'est que quoi qu'on fasse, quoi qu'on ait fait, quoi qu'on fasse et quoi qu'on fasse dans le futur, rien n'enlèvera l'amour de Dieu pour nous. On ne peut pas perdre cet amour. Nous sommes enfants de Dieu et ça, on ne peut pas le perdre. Le jour d'après, nous avons vu ce que c'est qu'être dans l'Église, le corps du Christ. Comment vivre les membres les uns avec les autres, comment chacun peut trouver sa place. Avant-hier soir, nous avons parlé du pardon. Comment Dieu est capable de recevoir nos confessions, les moments où on lui dit, tu sais Seigneur, je ne suis pas très très fier de moi d'avoir fait ça, mais je veux t'en parler, je veux me libérer de ça. Et comment Dieu nous accueille avec tellement d'amour et de tendresse. Hier soir, nous avons vu un petit peu le baptême, l'histoire du baptême, comment il avait été un petit peu perverti, un petit peu changé. À l'époque de Luther, il n'était plus du tout vécu de la même façon. On baptisait les enfants, alors qu'ils ne pouvaient même pas choisir. On a revu un petit peu l'histoire pour comprendre la richesse du baptême tel que nous le vivons maintenant. Et aujourd'hui, nous parlerons, et c'est Gabriel qui nous partagera son message, sur le retour de Jésus. Donc une semaine vraiment riche en partage. Et j'invite les jeunes à venir lire la lecture.
Bonjour, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, chapitre 1, versets 9 à 11.
Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux.
Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent
« Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. »
Voilà. J'ai la joie ce matin d'accueillir dans notre église le prédicateur Gabriel Goléa. Je dirais que c'est déjà un ami, parce qu'on travaille ensemble, bien souvent. Gabriel Goléac, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le président de la Fédération France Nord. Voilà, je lui laisse la parole ce matin.
Bonjour à tous. Oui, en général, je n'ai pas la tâche facile, mais là, je suis à Damary-les-Lys. Donc la tâche est très facile. Très heureux d'être avec vous ce matin. Certains, je les connais de près, certains un peu moins. Mais je suis très heureux d'avoir ici des frères et sœurs, des amis, et surtout d'être avec la jeunesse. Une belle semaine pour vous. Et ce matin, nous allons conclure cette semaine. D'abord, je vous transmets les salutations fraternelles de toute l'équipe de la Fédération et aussi des églises que je visite souvent. Ils me chargent, ils me disent « Transmettez les salutations là où vous passez ». Donc voilà, je suis déchargé, je serai plus léger tout à l'heure. Et en parlant de visites dans les églises, bon, je sais que ça va être... Bon, vous allez couper, hein. Je ne veux pas faire des jaloux, mais à Damary-les-Lys, c'est différent, dans le bon sens du terme, hein, je vous rassure tout de suite. Parce qu'en général, quand j'arrive dans une église, on me demande, il y a une personne qui s'approche, soit par email, soit par téléphone, ils me disent, quel est votre texte, quel est votre chant? Maximum 2 personnes. Mais là, à Damary-les-Lys, j'ai eu une armée qui m'ont posé la même question. Bon, je les cite, je vais les citer. Il y a Michel Lalu qui s'est approché de moi il y a bien des mois pour fixer une date. Bien entendu, le pasteur Mathieu Fury, je lui ai déjà dit, il m'a dit, dis-le publiquement, ça leur fera plaisir. Il y a Dina qui m'a contacté, il y a Sylvia qui m'a contacté, il y a Benjamin qui était votre invité pour la semaine, il y a Pedro aussi. Aussi Pedro, j'ai appris qu'il était responsable jeunesse, je ne savais pas. Je travaille avec lui, mais je ne savais pas qu'il avait aussi cette responsabilité. Et j'en passe. Mais j'ai compris une chose. Bon, c'est flatteur, il faut reconnaître. Si on est humain, il faut reconnaître que c'est flatteur. Mais je décrypte ça autrement. Et ça, c'est pour vous, les jeunes. Je sens qu'ici, vous êtes au petit frein. Tout le monde s'occupe de vous. Et ça, c'est plutôt encourageant. Gloire à Dieu pour cet encadrement, pour cet accompagnement. Et quand les jeunes sont bien accompagnés, quand ils sont aimés, et ça compte beaucoup. Effectivement, on dit souvent, oui, mais les jeunes, c'est l'avenir de l'Église. Non, c'est déjà le présent. Il faut qu'on soit au présent. Et il est important que nos jeunes, nos enfants se sentent bien ici. Prions pour que le Seigneur puisse nous aider, nous donner la sagesse de garder nos enfants, nos jeunes dans l'Église. Des fois, on fait des kilomètres, on fait le tour du monde pour avoir une âme. Alors que là, devant nous, il y a toute une armée qui est prête à s'investir. Il suffit simplement de les aimer, de les accompagner et de leur donner envie de rester dans l'Église. Gloire à Dieu pour votre travail et que le Seigneur puisse vous aider à continuer dans cet esprit-là. Et pour ceux qui sont un peu plus exigeants, ceux qui peut-être des fois disent oui, mais, parce qu'il y a toujours un mais, je leur dis une chose, mais amicalement, n'oubliez pas, vous avez été vous aussi des jeunes. Vous avez été vous aussi des enfants. Et imaginez qu'est-ce que vous auriez souhaité à l'époque qu'on vous dise et qu'on vous fasse. Mais faisons la même chose. C'est ce que Jésus disait aussi. Cette semaine, vous avez parlé d'un personnage, et cette année, on en parlera beaucoup, hein, dans tous les sens d'ailleurs. Ça va être à la une des journaux. Les critiques vont se dire, ça y est, c'est bon, c'est l'écuménisme. Les copains, les amis vont dire, ah mais non, c'est bien. Je pense que cette année, on va entendre beaucoup parler de Martin Luther qui a marqué l'histoire. Nous ne sommes pas dans la polémique. Nous prenons cette semaine, et j'essaie de rentrer dans l'esprit de ces réflexions sur Martin Luther. Nous prenons, on va dire, l'aspect de l'histoire et en quelle mesure cela nous aide à avancer. Je vous fais une confession, quand j'étais gamin, je n'aimais pas du tout l'histoire. J'avais une professeure qui m'a donné tout, sauf l'envie d'aimer l'histoire. Je ne sais pas comment ça se passait, bon, c'était son style à elle, peut-être qu'elle faisait bien, mais moi, je n'étais pas du tout dans l'histoire. Plus tard, j'ai compris qu'on peut aimer l'histoire, on peut apprendre, même des dates, des chiffres, des années, des personnages, et ça nous aide beaucoup, parce qu'en fonction de ce qui s'est passé, vous savez, comme dit la Bible, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. et ceux qui arrivent vers nous avec cette découverte extraordinaire. C'est nouveau, c'est nouveau. Quand on cherche un peu dans l'histoire, mais on a trouvé que ça a été déjà décidé, ça a été déjà débattu, ça a été déjà évoqué. Il suffit simplement d'apprendre de l'histoire. Et à une échelle beaucoup plus réduite, même l'histoire personnelle, ça aide beaucoup. Vous imaginez si à chaque fois on devait répéter, refaire, ne rien apprendre, on serait mal. D'où l'importance de garder les leçons du passé pour bien être dans le présent et espérer un futur meilleur. Ces deux anges qui ont accompagné ses disciples, ils ont vu l'embarras, l'amertume, la tristesse de ses disciples, mais ils ont dit, « Homme de Galilée, pourquoi restez-vous là pour scruter le ciel ?» Ce même Jésus qui a été enlevé, eh bien, ce même Jésus qui part maintenant du milieu de vous, viendra de la même manière. Et ça a été l'espérance phare qui a guidé la pensée de tous les disciples de tous les temps. Quelqu'un disait qu'un disciple du Christ doit vivre toujours dans la parousie. C'est un mot barbare, mais en gros ça veut dire le retour de Jésus. Et cette attente extraordinaire, c'est-à-dire le désir, la passion, la joie d'être avec lui. Et Martin Luther est un exemple dans ce sens. Mettons un petit peu le contexte. Vous savez quel était son passe-temps? En latin, c'était per otium. Son passe-temps, c'était de parler, de discuter, d'étudier le retour de Jésus. Vous imaginez, qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est mon hobby, pour être français. C'est ma passion. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je cherche des textes, j'aime Jésus et je veux découvrir un peu plus sur ça. Martin Luther, il en fait toute une passion, étudier le retour de Jésus. Il se trouve qu'à un moment donné, un de ses amis a été tenté par le désir de fixer une date. Il a fixé la date, bien sûr que ça a créé une sorte de clivage dans l'entourage de cet ami. Il y a ceux qui étaient d'accord, ceux qui ne l'étaient pas. Et Martin Luther, l'ami, va défendre son copain en disant, « Écoutez, il s'est laissé emporter par une petite tentation. Il a voulu fixer des dates. » Mais Luther ne tombe pas dans les dates. Lui, ce qui l'importe, c'est le thème, le retour de Jésus. Le contexte, avant la présentation des 95 thèses sur l'église du château de Wittenberg, il y a deux grands événements qui ont marqué l'histoire. Le premier, c'est plutôt à l'est, c'est la chute de la capitale de l'Empire byzantin, de Constantinople, 1453, et là ça va marquer une sorte de séisme, de choc, les Ottomans sont à la porte de l'Europe. Et ça va se faire parce que plus tard, en 1529, eh bien, Soliman le premier, il arrive avec ses troupes, les Ottomans, ils arrivent jusqu'aux portes de Vienne, en Autriche. Heureusement, il y a eu la neige, l'hiver rude, qui les a empêchés de rester un peu plus, sinon l'Europe aurait eu aujourd'hui tout un autre visage. Deuxième événement qui marque les esprits, c'est dans l'autre sens, à l'opposé. C'est la découverte de l'Amérique, 1492. Alors c'est un monde nouveau qui s'ouvre, c'est quelque chose d'intéressant, on ne connaissait pas ses limites, et c'est toute une révolution dans la pensée, dans la pratique. Et puis dans ce contexte-là, Luther cherche à comprendre le monde, mais aussi comprendre justement le retour de Jésus. Et comment on sait que la pensée occidentale faisait la confusion, enfin la superposition entre la cité et l'Église? Eh bien, Martin Luther, il a peur parce que la fin de la cité, c'est la fin de l'Église et ça va être le jugement. C'est le jugement qui va déclencher, qui va arrêter l'histoire de cette humanité. Et comme pour lui, le jugement, c'est quelque chose de très négatif, il commence à paniquer. Et là, il va avoir deux solutions. Soit de vivre dans la terreur, dans l'angoisse, soit, ce qu'il a fait, il va se jeter dans les bras du Christ. Il va avoir cette expérience extraordinaire qui va l'amener à découvrir Christ, cette expérience qu'on appelle l'expérience de la tour. Parce que c'est dans une tour qu'il a eu cette expérience extraordinaire de la connaissance du Christ qui libère. Et à partir de là, cet homme va parler de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. C'était dans la Bible, c'était écrit, mais on l'a un peu oublié. L'histoire, les indulgences, les pénitences. Et puis lui, qui découvre cette grâce extraordinaire, cette rencontre formidable, lui et Jésus. À partir de là, sa vie va changer. Il va faire une passion pour découvrir le retour de Jésus, mais non pas dans l'angoisse, non pas dans la peur, mais dans la joie. Il attend qu'une chose, que Jésus revienne. Depuis l'histoire du christianisme, du protestantisme en général, mais avec des nuances bien sûr, et surtout de l'église adventiste, va être marquée par ce désir extraordinaire, la rencontre avec Jésus. Vous imaginez, même dans le nom de l'église adventiste, il y a un pilier formidable qui est celui qui rappelle le retour de Jésus. Alors, le retour de Jésus, adventiste du septième jour, et le sabbat, ce sont deux piliers importants de la croix, de la croyance, de la foi biblique. Entre nous, imaginez un monde dans lequel les adventistes du septième jour ne croient pas vraiment au retour de Jésus et ils ne respectent pas vraiment le sabbat. Est-ce que ce serait vraiment à la hauteur du défi qui leur a été lancé? Ce serait dommage. Parce que vivre dans cette attente, c'est le cœur même de l'évangile. Alors, il y a deux manières d'aborder le sujet. Quand on parle du retour de Jésus, il y a les faits, les chiffres, les dates, ce qui est autour du retour. Et la deuxième approche, c'est de comprendre, d'abord, de comprendre, de connaître la personne de Jésus et aimer tellement son retour. Je vais commencer peut-être par la deuxième, à savoir tomber amoureux de Jésus. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps une personne qui ne connaissait pas Jésus avant, qui avait une autre expérience, une autre sensibilité, une culture, une tradition. Il m'a dit, j'ai découvert Jésus. C'est une femme et elle me dit, je suis tombée amoureuse de Jésus. Je l'aime Jésus. Je ne connaissais pas, j'avais entendu parler, mais là, je l'aime. Cet amour-là qui vient des Écritures, cette passion pour la personne de Jésus, le cœur même de l'Évangile. Martin Luther disait, parce que là il y a une tension, effectivement, est-ce que Jésus revient, il revient quand, comment ça se passe? Et là on arrive plutôt à la deuxième attitude, c'est de se fixer sur des événements qui sont autour de l'événement, autour de la personne, les dates, les circonstances, les événements. Et là effectivement on peut être gâté. Aujourd'hui, avec les moyens de communication modernes, on est au courant de ce qui se passe vraiment dans la seconde. Et on peut tomber dans ça. On peut tomber, c'est vrai que c'est une tentation qui peut nous guetter, à savoir s'occuper de tout ce qui est information, ce qui est autour d'eux. Aujourd'hui, vous appuyez sur un bouton, mais à l'autre bout du monde, quelqu'un est informé. Je me souviens des premiers emails que j'ai envoyés, ça date des années 95, 90. Pour moi, c'était un miracle extraordinaire. Avant, je prenais le téléphone, enfin, c'était plus compliqué. Je ne peux pas vous dire que j'ai connu le fax, mais oui, le fax aussi, la lettre. Mais aujourd'hui, c'est extraordinaire. Au point que nous tombons dans les pièges. Il suffit d'avoir votre message sur le smartphone et à la fin, c'est marqué « Faites circuler ». Et vous faites circuler. Vous avez 30 contacts, mais ça part. Après, vous vous rendez compte que c'est du bluff. Mais vous étiez les premiers. On a une passion pour être les premiers. Moi, j'étais informé le premier. On peut tomber dans ça. Effectivement, le monde moderne est rempli de ces pièges. C'est être informé, de savoir ce qui se passe. Et surtout de savoir ce qui se passe derrière les rideaux, c'est-à-dire où personne n'a accès. Mais vous le savez. Il y a eu une discussion, il y a eu quelque chose. Et là, bien sûr, ça commence. L'imagination va vous aider. Et on peut être dans ces démarches, mais sans connaître Christ, sans avoir l'amour pour Jésus. Être amoureux de Jésus, de son avènement, pas de ce qui se passe autour. Je le dis avec respect, j'aime bien être informé, j'aime beaucoup, il n'y a pas de problème, mais je sens que je risque d'être piégé. Parce que s'informer de tous les déplacements du pape pour pouvoir construire une foi personnelle, c'est limite. Moi, je souhaite connaître Christ. Et vivre dans la parousie, c'est être prêt tous les jours. Ce n'est pas la date qui me pose problème. Ce n'est pas l'événement. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait une déclaration que ma foi commence à se remettre en question et se dire, ça y est, je dois être prêt. Je l'aime Jésus pour lui-même. C'est vrai que les disciples de Jésus doivent être toujours prêts, connaître les temps. Ellen White disait une fois que le peuple de Dieu doit savoir quel temps nous vivons. Et c'est important de savoir. Mais le plus important, à part l'information, à part ce qui est autour, c'est de connaître Christ et de l'aimer. Être prêt à chaque instant. Personnellement, je dis avec un brin de provocation, j'ai arrêté de fixer ma foi en fonction des déplacements du pape. Je suis attentif, je regarde, mais ce n'est pas ça qui va faire que ma foi devrait s'activer. J'aime Jésus et je souhaite être avec lui. Aujourd'hui, demain, après-demain, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est est-ce que nous sommes avec lui ou non. Les disciples qui accompagnaient Jésus ont reçu une promesse. Le même Jésus qui est parti, le même Jésus reviendra. Quand? C'est moins important. Ce qui est important, c'est que nous soyons prêts maintenant, à chaque instant, que nous puissions l'aimer, que nous puissions le dire autour de nous. Ça me rappelle une prière que quelqu'un avait formulée un jour. Il se réveillait le matin, il se mettait à genoux, il disait, Seigneur, je te remercie pour la journée, je pensais que ça allait se faire cette nuit, mais tu n'es pas revenu. Peut-être ça sera aujourd'hui. Et je prie que ce soit aujourd'hui. La journée passait, et la même personne se mettait à genoux en disant, Seigneur, je constate que tu n'es pas venu aujourd'hui. Peut-être ça sera cette nuit. Mais je veux être prêt. Le lendemain, il répétait la même prière en disant, je pensais que c'était la nuit, non, mais aide-moi à être prêt aujourd'hui, et ainsi de suite. Nous devons prier dans ce sens à chaque instant. Nous voulons être avec Jésus, nous voulons être avec lui pour l'éternité. Il prépare un peuple pour le royaume de Dieu. Il veut que nous soyons tous présents. Et la plus grande joie que le Seigneur pourra avoir, c'est de constater que les mérites de son sacrifice et porter des fruits. Pour cela, il nous a invités et nous a envoyés dans le monde. Il nous a dit, allez-y, portez cette bonne parole. Allez-y voir votre voisin, dis-lui combien vous l'aimez et surtout combien Christ l'aime. Ne construisez pas votre démarche sur ce que fait le catholique est en face. Ne construisez pas les critiques, enfin, votre foi sur les critiques des autres, mais construisez votre royaume et le royaume de Dieu sur cet amour pour Jésus. Seigneur, aide-nous à t'aimer, à proclamer ton retour à chaque instant. Que le Seigneur nous donne de vivre de belles expériences dans ce sens. Que nous puissions avoir cette discussion, cet échange, ce message avec les jeunes, avec nos enfants, qui puissent aimer Jésus. Pas juste l'Église, pas la doctrine seulement, mais aimer Jésus et son retour. Que nous puissions, nous, en tant qu'adultes aussi, avoir le même discours, la même passion, le même amour pour Jésus. Qu'on le dise à nos voisins, à nos collègues, à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Et que nous soyons tous des porteurs de cette bonne nouvelle, là où le Seigneur nous a placés. Et que nous ayons droit à ce que l'apôtre Paul appelle, dans sa lettre adressée à Tite, de cette bienheureuse espérance. Amen.